Ce geste est posé à la demande des médiateurs pakistanais. Et la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, a présenté hier son conseil des ministres. Les infos qui étaient déjà pas mal connues, là, mais il y a des surprises qui ont été dévoilées en journée. Notamment, Yann Lafrenière qui prend du galon en étant nommé vice-premier ministre du Québec. Il reste également ministre de la Sécurité intérieure. Ça, c'est le nouveau nom pour ministre de la Sécurité publique.
Monsieur Lafrenière est au bout du fil. Il est le nouveau vice-premier ministre du Québec. Bon matin, Monsieur Lafrenière. Merci d'être là.
Bon matin à vous deux.
Est-ce que c'est un objectif de carrière? Vous avez été policier longtemps, mais est-ce qu'un jour vous aviez espéré, pensé que ce serait possible d'accéder au poste de vice-premier ministre du Québec?
Pour être bien honnête avec vous, absolument pas. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ça. Ce matin, je me pince encore. Écoute, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai reçu ce rôle-là de la première ministre. Et on se met à la tâche dès ce matin. J'arrive pour rencontrer les équipes parce qu'on a beaucoup de choses à faire en peu de temps.
Ça vous a été annoncé comment que ce serait vous, le prochain vice-premier ministre du Québec?
Ça m'a été annoncé par la première ministre. Et c'est un moment particulier que je vais me rappeler toute ma vie.
Mais ça se fait comment?
Je vais vous dire, mais c'est particulier. Écoutez, je ne m'en cacherai pas. Pendant la campagne, je l'avais dit... Moi, je considère Mme Fréchette comme ma partenaire. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une femme qui est courageuse, qui écoute les gens, qui prend des décisions, qui sont audacieuses, qui sont courageuses. Alors, pour moi, de travailler avec elle, c'est un honneur.
On parlait du ministère de la Sécurité publique à l'époque. Là, maintenant, on parle du ministère de la Sécurité intérieure. Pourquoi avoir changé ça de nom?
C'est pas cosmétique. C'est important qu'on s'en parle ce matin. Merci de me donner le temps de jaser de ça. Parce qu'un, il y a une réalité qui existe qui s'appelle le ministère de l'Intérieur, qu'on voit en France, qu'on voit en Afrique. J'ai fait plusieurs missions dans ces endroits-là, puis c'est pas du tout ce qu'on va faire ici. Ou même le Homeland Security du côté américain, où normalement on retrouverait l'immigration, on retrouverait les affaires municipales dans le même ministère, dans un super ministère. C'est pas ça du tout. Sécurité intérieure, pourquoi on a fait ça? Parce qu'il faut se le dire, puis je pense que je ne vous surprendrai pas aujourd'hui, est-ce que notre nation vit des cyberattaques? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des tentatives d'ingérence de d'autres nations chez nous? La réponse est oui. Alors, on veut regrouper tout ce qui existe déjà, parce qu'on a déjà plusieurs choses. Puis en passant, même si ça s'appelle le ministère de la Sécurité intérieure, ce matin, je vous annonce pas qu'on embauche, qu'on crée de nouveaux postes. On veut juste regrouper sous le même chapeau plusieurs choses qui existent déjà. Donc, le renseignement, le service de renseignement criminel du Québec va se retrouver là. Tout le volet cyber, cyberattaque, cyberdéfense va se retrouver là aussi. Et d'autres agences qui existent déjà, on a déjà commencé ce transfert-là avec les contrôleurs routiers. On va ajouter les agents de protection de la faune. Ce qu'on veut, là, c'est être bien coordonnés, travailler ensemble, que toutes les forces qui existent déjà soient regroupées ensemble. Puis qu'est-ce que ça va amener pour les citoyens? Je vais vous donner un exemple. Présentement, on a des inondations, mais ça permettrait au ministère de la Sécurité intérieure de demander aux agents d'affondre avec les embarcations, exemple, de venir donner un coup de main. Je ne dis pas que c'est impossible présentement, mais là, on passe de d'autres ministères, des regroupés sous le même chapeau. Ça, c'est les avantages-là d'avoir une meilleure coordination puis d'être mieux préparé pour ce qui arrive, parce que le monde a changé, malheureusement.
Tu avais une question, Jeff?
Oui, bien, tout simplement, au niveau de la violence chez les jeunes, on a vu présentement, Haute-Ville de Québec, ici, les jeunes de Sainte-Pat, c'est les jeunes de l'école Joseph-François Perrault qui se frappent dans les halls quartiers. Qu'est-ce qu'on va faire pour tenter d'enrayer ça? Parce qu'on a vu, pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, repentir des jeunes s'en prendre à une personne aînée dans un dépanneur. Fait que c'est en hausse, cette violence-là, chez les jeunes.
C'est plus présent, puis on en parle plus. Honnêtement, moi, je suis papa de deux belles filles que j'aime bien. Là, puis ça, c'est sûr que ça me préoccupe beaucoup. Vous avez mentionné Repentigny. C'est venu me chercher aussi. Vous savez, quand j'étais nommé à Sécurité publique, la première annonce que j'ai faite, c'est 140 millions pour la prévention. Premier volet, pour moi, ce qui était important, c'est de la prévention. Donc, on a fait un appel d'offres. On a demandé aux organismes qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir chez les jeunes soit l'adhésion à des groupes criminels, ou l'adhésion à des trajectoires criminelles. Fait que ça, c'est le premier volet qu'on a fait. Depuis quelques semaines, j'ai ouvert un autre volet qui est plutôt le volet répression, donc d'avoir une présence sur le terrain pour contrer ça. On a demandé au fédéral aussi d'avoir des peines plus sévères lorsque des adultes passent par des jeunes pour commettre des crimes, parce que c'est une réalité qui est bien présente. Vous savez, des adultes qui vont commenter des crimes chez les jeunes. Ça, le fédéral a déjà répondu qu'il changeait.
Ouais, on l'a vu d'ailleurs avec le dossier Frampton, là, que la semaine dernière.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Puis récemment, le SPVM faisait l'opération Aurora, où ils ont réussi, en allant sur le web, sur le cyber, à traquer des gens, justement, qui offraient des contrats, entre autres, sur Telegram. Et en passant, pour les jeunes qui nous écoutent ce matin, qui peuvent avoir l'appât du gain en se disant, écoute, c'est intéressant, s'ils peuvent offrir 1 000, 10 000 $ pour faire un crime, quand ils ont fait ces arrestations-là, il y a un des jeunes qui a témoigné, qui a fait 22 contrats. Et savez-vous combien de fois il a été payé?
Une fois?
Zéro.
Zéro.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais le premier crime, ce que l'organisation va te demander, c'est de prendre une photo de toi sur les lieux du crime pour être payé. Fait que le jeune de bonne foi envoie photo sur les lieux de l'incendie criminel, qu'est-ce que vous pensez qui arrive par la suite?
Ben là, ils s'en servent pour la faire chanter.
Ben, là, t'es fait, là, ils vont te faire chanter en disant, tu vas en faire un autre, sinon on va envoyer ça à la police. Fait que c'est une réalité qui est là. On s'est engagé avec le premier ministre aussi de mettre en place, dans la région de Québec et Montréal, des hubs technologiques pour donner des outils technologiques aux policiers pour aller sur le cyber. Et même plus loin que ça, ça va avoir l'air très futuriste ce que je vous ai là. On veut mettre deux projets pilotes de drones pour assister les patrouilles avec des drones. Ça se fait déjà en Ontario, ça se fait déjà beaucoup d'endroits du côté américain. On veut vraiment donner des outils technologiques aux policiers pour agir, parce qu'écoutez, je pourrais doubler le nombre de policiers sur le territoire, il y aurait de l'ouvrage pour tout le monde. Alors, il faut trouver d'autres solutions pour aider les policiers. Les outils technologiques vont être mis de l'avant.
Est-ce que ce sera sous votre juridiction, avec le ministère de la Sécurité intérieure, les centres de détention?
Ça l'est déjà. Ça l'est déjà.
Les nombreuses livraisons par drone, les détenus à l'intérieur qui se filment avec des cellulaires, qui ont accès à l'Internet, qui peuvent continuer de gérer leur « business » entre guillemets. Est-ce qu'on va utiliser d'autres moyens pour empêcher ces cellulaires-là de rentrer en prison par les drones, oui, ou peut-être d'autres techniques? Là, j'imagine qu'il y a des agents correctionnels qui peuvent rentrer du stock aussi une fois de temps en temps. Y a-t-il quelque chose sur lequel vous allez vous pencher là, dans les prochaines semaines?
Ça a été commencé par mon prédécesseur, François Randel, qui avait rajouté des scans corporels. Puis ça, c'est pour la sécurité aussi des agents de services correctionnels. Hein. Quand on fait une fouille à proximité d'une personne, il y a toujours ce danger-là, justement, qu'il y ait de contact physique ou quoi que ce soit. Donc, le scan permet de vraiment scanner la personne au complet, s'assurer qu'il n'y a rien qui a été caché. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je m'apprête à faire dans les prochains jours, c'est qu'on va changer le code de vie. Code de vie à l'intérieur des barreaux, c'est-à-dire lorsqu'un détenu va contrevenir, on va arriver avec des conséquences qui vont être plus sévères. Parce que ça, les agents le demandaient depuis longtemps. Pourquoi? Pour leur donner des pouvoirs supplémentaires, parce que sinon, comment ramener le calme à l'intérieur, ça devient difficile. Et les opérations, je veux saluer les agents de services correctionnels ce matin, ils ont fait plusieurs opérations. Les opérations à l'intérieur des barreaux, c'est vrai. Les opérations à l'extérieur avec des services de police comme Québec-Montréal, encore récemment, des opérations qui ont eu lieu où les gens étaient arrêtés lorsqu'ils envoyaient un drone porter des choses à l'intérieur. Beaucoup plus de saisies d'appareils cellulaires. On a mis des appareils de détection pour détecter des cellulaires. Alors, c'est pas une guerre qui est terminée, hein, parce que c'est pas simple. Et moi, de voir que des gens se traitent d'influenceurs à l'intérieur des barreaux, fait comprendre à quel point ça ne me met pas de bonne humeur. Fait que je travaille avec les agents de service correctionnel, leur donner des bons outils. Ils font tout un boulot qui n'est pas simple. J'ai beau avoir été policier pendant 28 ans, je peux vous dire que ce n'est pas un milieu que je connaissais énormément. Je me suis déplacé sur le terrain, je suis allé voir différents centres correctionnels, puis je peux vous dire qu'ils font tout un travail. Alors, on veut bien les outiller, puis ils font partie de la solution.
M. Lafrenière, je vous félicite pour votre nouveau poste de premier ministre, vice-premier ministre du Québec, puis par le fait même ministre de la Sécurité intérieure. Il reste encore quelques semaines avant la reprise des travaux. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, vous reprenez le 5. Là, on part pour quelques semaines de travail à l'Assemblée nationale. Ensuite, c'est les vacances d'été, puis après ça, c'est les élections. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, puis en espérant avoir le plaisir de vous rejaser dans les prochaines semaines.
Ça sera un plaisir, puis je peux vous dire, dès notre retour à l'Assemblée nationale, la priorité numéro un, la première ministre me l'a dit clairement, c'est justement la loi de Claire, qui permettrait à des femmes de connaître quels sont les antécédents de leur conjoint, de la personne qui partage leur vie. Et ça, j'ai entendu les oppositions hier m'offrir leur aide, fait qu'on va le travailler ensemble. Mes équipes sont déjà à rédaction de ça depuis 2-3 semaines. Alors, ça va être fait, puis ça va être fait avant notre départ pour l'été.
Bon, il y a le registre des délinquants sexuels qu'on aimerait avoir aussi, là, mais ça, ce sera un autre dossier.
Ouais. Attention, on n'a pas eu la chance de s'en parler, c'est peut-être ça qui est triste, mais allez-y. Récemment, la loi 13 que j'ai mis en place avec les oppositions, un registre des délinquants sexuels avec un haut risque de récidive,
c'est
fait.
Ah oui.
Ça, c'est fait, ça va être public. Il faut nous laisser quelques mois mettre ça de l'avant. On a fait ça. On a fait aussi des lois plus sévères pour les manifestations. Les gens ne peuvent plus aller manifester avec des feux d'artifice, avec des irritants chimiques, avec des boules de billard, des choses comme ça. Ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus manifester devant la résidence d'un élu, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Les policiers qui agissent maintenant, qui s'en vont sur une plainte de bruit et qui voient qu'il y a un homme qui est violent sur les lieux, qui n'a pas fait de crime, mais vous savez, il y a des tensions conjugales, peuvent le référer à un organisme qui vient en aide aux hommes violents. Ça, j'avais des doutes au début. On a fait un projet pilote sur la rive sud de Montréal. 75 % des hommes ont accepté l'aide qui avait été offerte. Donc, c'est de la prévention, très bon. Les femmes aussi vont pouvoir être entendues devant les libérations conditionnelles du Québec pour exprimer ce qu'elles ont vécu pour avoir une influence sur la libération conditionnelle. Les victimes vont pouvoir savoir maintenant quelles sont les conditions de libération du suspect de la part des policiers. Écoutez, beaucoup de choses qui ont été changées récemment. On continue, c'est pas terminé. On doit avoir quelques semaines devant nous. Je peux vous dire que les changements vont continuer. Et exemple, les contrôleurs routiers sont rendus sous la gouverne de la sécurité intérieure. Puis prochainement, ce sera les agents de la faune aussi. Donc beaucoup de changements en peu de temps.
Ça a été un plaisir, M. Lafrenière. Merci.
À bientôt.
Au revoir, merci. Yann Lafrenière, qui est vice-premier ministre du Québec et ministre de la Sécurité intérieure. Pour ce qui est du registre des délinquants,